بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. chères sœurs, chers frères. Alors bienvenue dans ce deuxième podcast qui est la suite de celui qui le précède. Donc on est dans une nouvelle partie, toujours sur le voile. Donc cette partie fait suite au podcast qui traitait des origines du voile et du scepticisme en la matière. Donc nous avons notamment mis en exergue dans le podcast qui précède une méthodologie applicable à toute question d'ordre religieuse dans sa mise en pratique. Et maintenant, nous allons traiter du voile au regard de la sunna. Donc c'est toujours intéressant de savoir que ça fait suite aussi à l'article que j'ai publié le 2 mai en la matière. Donc voilà, parce que je cite des versets coraniques qui sont bien énoncés dans cet article. Donc on peut toujours revenir à l'article pour plus de détails. Donc on va traiter maintenant du voile au regard de la sunna. Et dans un premier temps, nous allons voir que le voile est un outil de la révélation. Ensuite, nous verrons que le voile était à l'époque un vêtement mixte coutumier. Et enfin, nous allons voir quelle était la spécificité du voile pour les femmes. Et donc, nous traiterons du voilement des femmes selon la tradition prophétique. Donc, commençons par le voile comme outil de la révélation. Alors, dans un premier temps, nous allons parler du verset du hijab dans la sourate 19, Mariam, verset 17. Il est dit « Elle mit entre elle et eux un voile, hijaban, nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. » Donc ici, Allah nous parle de l'insufflation, en tout cas l'annoncement, on pourrait dire, à Mariam de la naissance prochaine de Isa, alayhi salam, du fait qu'elle va l'enfanter. Et pour que cette annonciation prenne forme, une distance est nécessaire. Et cette distance de Mariam avec sa famille, c'est le voile. Donc, dans l'article, j'explique qu'il semblerait qu'Allah décrive par la notion de voile ici une distance nécessaire pour laisser place à ce qui relève de son ordre, de son mystère. Et cette interprétation, elle concorde avec le fait que la sunna nous révèle que notre bien-aimé Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, était souvent complètement couvert d'un voile, on pourrait même dire d'un drap, lorsque la révélation lui était faite. Il était ainsi caché du monde. Le choc de la révélation, en effet, était tel que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, préférait souvent s'envelopper afin de préserver son intimité prophétique qu'il avait avec notre Seigneur, Allah wa ta'ala. Alors, d'après Bukhari, Aïcha a rapporté, donc voici un hadith qui authentifie, on va dire, cette idée-là. Dès qu'on eut dévoilé l'envoyé de Dieu, il se montra souriant et les premières paroles qu'il prononcèrent furent celles-ci. Donc voilà, je ne vous cite pas les paroles suivantes, l'idée c'est juste de souligner que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfois complètement recouvert lorsque l'ordre d'Allah se révélait à lui. Et ceci concorde avec un autre verset du Coran, qui est le verset 51 de la sourate La Concertation, c'est la sourate 42, dans lequel il est dit « Aucun humain n'a capacité à ce qu'Allah lui parle, si ce n'est par révélation, ou de derrière un voile, ou par l'envoi d'un messager. Alors il fait révéler sur son ordre ce qu'il veut. » Alors, ceci concorde avec le verset 17 de la sourate 19 qu'on a cité précédemment sur le hijab que portait Mariam. Qu'il soit métaphorique ou qu'il soit physique, on va dire, ça concorde avec le fait que la révélation nécessite une distanciation qu'on peut nommer en tout cas hijab. Alors, dans cette analyse-là qu'on vient de voir, le voile est un outil de la révélation. Il ne s'agit pas ici du voile porté par les femmes de façon générale, mais bien d'une forme de bulle impénétrable qui protège le serviteur privilégié d'Allah lorsque se produit quelque chose provenant de l'ordre de l'inconnaissable, du mystère d'Allah. Donc voilà pour ce qui est du voile comme outil de la révélation. Passons maintenant au voile comme vêtement mixte et coutumier. Donc il y a pléthore dans la tradition prophétique, dans les hadiths. Il y a pléthore d'exemples, de termes, on va dire, pour traiter du voile. En fait, et c'était en ce sens-là un vêtement coutumier, beaucoup porté autant par les hommes que par les femmes. Et beaucoup de hadiths rapportent des exemples de vêtements dans lesquels s'enveloppaient les hommes, qu'on pourrait traduire en français par voile. Donc il y a notamment le fahoub, donc qui est un tissu, un drap, un textile. Donc il a des usages multiples qui vont de la serviette de toilette jusqu'à la tenue de prière. Alors je vais vous citer bon nombre de hadiths qui vont dans ce sens. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconte à Abu Hurayra que le prophète Ayoub utilisait son voile pour ramasser des sauterelles d'or. Donc ici, c'est le terme fahoub qui a été utilisé pour décrire cet outil qu'était ce drap, ce voile. Ensuite, un autre hadith, pour parler encore de ce terme, on va voir toutes les facettes du fahoub. C'est Maymouna, radiallahu anha, une des épouses du prophète, qui disait, on a vu Maymouna apporter de l'eau au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il fasse ses ablutions, et elle lui recouvrait la tête d'un voile. Toujours ce même terme, fahoub. Encore un autre hadith, Houm Ani, la sœur de Ali, radiallahu anhu, entra un jour chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et observa qu'il faisait une prière de 8 rakats après s'être lavé. Il était alors enroulé, endrapé, enveloppé dans un fahoub. Alors, notons encore autre chose, c'est un hadith rapporté par Omar Abu Salama qui a observé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vêtu d'un simple fahoub qu'il croisait sur ses épaules pour prier. Notons aussi au niveau de la pudeur que le fahoub, lorsqu'il était porté comme tenue unique, sans rien d'autre, il nécessitait qu'on le tienne de sorte à ne pas laisser apparaître sa nudité. C'est ainsi que, d'après ces hadiths, certains juristes ont autorisé les hommes à prier enroulés dans un simple tissu, en le croisant sur les épaules. Pour poursuivre un peu sur ce point, je vous disais il y a quelques instants que il y a un hadith qui est rapporté par Omar Abu Salama disant qu'il a observé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vêtu d'un simple fahoub qu'il croisait sur ses épaules pour prier. Et alors, c'est ce hadith qui a donné. Qui a permis à certains juristes d'autoriser les hommes à prier enroulés dans un simple tissu, le fahoub, en le croisant sur les épaules.
Mais Abu Hurayra rapporte ce même hadith dans une version plus longue, ajoutant, je vais citer le hadith en entier. Plus tard, un homme adressa la question à Omar. Si, répondit-il, Allah vous a donné l'aisance, usez du superflu. Qu'un homme mette tous ses vêtements pour faire la prière, qu'un autre mette un izar et une robe, un izar et une chemise, un izar et une cape, un pantalon et un manteau, un pantalon et une chemise, un pantalon et une cape, un caleçon et une cape ou encore un caleçon et une chemise. Dans ce hadith, c'est ce qui a été privilégié par les transmetteurs, c'est que, en fait, voilà, ici, Abu Huraira a donné plus de détails sur le hadith que Omar avait donné, avec l'intention de ne pas sacraliser le port de Thoub unique. L'idée, c'était à la fois pour des raisons de pudeur et pour autoriser la manifestation de l'aisance. On n'est pas obligé d'être, pour ne pas qu'il y ait une sorte de sacralisation du thawb, puisqu'on sait qu'on peut prier dans un simple thawb, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Il aurait pu, s'il n'y avait eu que ce hadith, y avoir une sorte de règle qui s'installe où les hommes ne s'autorisent qu'à prier dans cette tenue-là. Or, on nous a rapporté le hadith que je viens de citer, qui note beaucoup, beaucoup de détails sur les différents vêtements que peuvent porter les hommes lorsqu'ils prient. Et ça a donc de but, permettre plus de pudeur en se couvrant davantage et aussi autoriser la manifestation de l'aisance. On est très nombreux à connaître comment dire, le fait qu'il est détestable de manifester son aisance, sa richesse, avec orgueil, en voulant laisser traîner pour les hommes ses robes, ses habits. Mais d'un autre côté, on voit aussi ici que ce n'est pas interdit non plus de manifester son aisance. On a le droit, si on a d'autres vêtements qu'un soub, de les porter. Voilà. On peut les porter sans exagération. Et on en vient au fait que la société médinoise de l'époque était une société très modeste. Et pourquoi parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait que enrobé d'un thawb? Parce que il n'avait pas des garde-robes très fournis, hein. C'était pas la société de consommation actuelle. Et en ce sens, je vais vous citer encore des hadiths. Alors, voilà, des hadiths qui décrivent le fait que le thawb et le izar, je n'ai pas décrit ce qu'était le izar, mais c'est comme un synonyme de thawb, hein, c'est un grand tissu, un drap, on pourrait dire un pagne. Donc, ces vêtements-là sont caractéristiques du vêtement bédouin modeste et pauvre. Et d'ailleurs, il suffisait, certains hadiths nous prouvent qu'il suffisait comme mahr, c'est-à-dire comme dot pour le mariage. J'en veux pour preuve donc un hadith enfin, je ne vais pas vous le retranscrire dans son exactitude, mais vous pouvez le retrouver. Et voilà, ils étaient comme en expédition, le prophète avec certains compagnons, et il n'y avait aucune femme. Et le prophète leur a dit qu'un thawb était suffisant pour contracter un mariage. Voilà, si quelqu'un n'a pas assez de richesse, il peut se marier en donnant un tissu à sa femme. Donc ça prouve un peu la modestie de la société de l'époque. Et il y a un autre hadith qui va dans ce sens, c'est d'après Abu Hurayra, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se serait exclamé: Chacun de vous a-t-il deux thawbs? Ce qui souligne encore une fois la simplicité du système médinois de l'époque. Donc voilà, le prophète avait demandé si tout le monde avait au moins deux habits à se mettre. Voilà, et puis un dernier hadith qui est un peu plus anecdotique, C'est dans le livre. Oui, tous les hadiths que je viens de citer sont des hadiths de Bouhayri. Et dans le livre des expéditions militaires de Bouhayri, le soub caractérise un costume médinois, encore une fois. Et on a un exemple, c'est lorsqu'une femme, elle s'est emparée du soub d'un homme pour le menacer en l'étranglant de son propre vêtement. Et dans le livre de l'exégèse, on nous rapporte que les polythéistes usèrent de même sur le prophète avec le thawb du prophète. Un jour, un polythéiste a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son propre thawb. Bon, ça c'est pour vraiment décrire les vêtements de l'époque. Donc là, on voit bien que le voile à l'époque était un vêtement mixte coutumier. Mais est-ce que cela suffit pour dire que il n'est plus d'actualité de nos jours, que c'était simplement un vêtement coutumier? On a vu précédemment qu'il était aussi un outil de la révélation. Voyons maintenant qu'il est également un vêtement féminin spécifique aux femmes et traitons donc du voilement de la femme selon la tradition prophétique. Alors, je vous propose de vous faire cette troisième partie, c'est-à-dire on a fait le grand A, le voile outil de la révélation, le grand B, le voile vêtement mixte coutumier. Maintenant, dans un nouveau podcast, pour pas que ce soit trop long, je vous propose le voilement des femmes selon la tradition prophétique. Alors, je vous dis assalamu alaikum et à très vite pour ce nouveau podcast. Salam alaikum, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.